France Inter.
D'abord mannequin puis photographe, Sarah Moon est aussi illustratrice de livres et réalisatrice de fiction, de clips ou de films publicitaires dont plusieurs ont été couronnés de Lion d'or à Cannes. À la fin des années 60, ses clichés de mode pour Cacharel lancent sa carrière. Elle devient vite l'une des chantres de la photographie de mode impressionniste. Onirisme et fantasmagorie auréolent les corps qu'elle fixe dans des espaces et temporalités qui semblent annexes au monde que nous connaissons. Mon prétexte pour inviter cette grande dame des images est la sortie du beau livre « Dialogue avec Yoji Yamamoto » chez Delpire & Co, ouvrage aussi beau qu'onéreux, puisqu'il coûte 150 euros, ce que je précise, car on parle toujours ici de choses dont la plupart des auditeurs peuvent s'emparer, et ce ne sera pas le cas de la majorité d'entre eux concernant cet objet. En revanche, plein de livres de photos de Sarah Moon plus accessibles existent. De surcroît, nous allons, au cours de cet entretien, sonder son âme, ce qui n'a pas de prix, et découvrir sa vision du monde et de la beauté, ce qui pourra également, je l'espère, inspirer gracieusement. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Sarah Moon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
C'est là le brûle-pourpoint qui me bloque. Mais, parce qu'il y en a beaucoup. Disons que ce qui m'a enthousiasmée hier et avant-hier, c'est la venue du printemps si intense. J'étais ravie qu'il fasse si beau tout d'un coup dans tout ce gris. Voilà, c'est d'une grande banalité, mais c'est comme ça.
Non, parce que quand on connaît votre œuvre, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres et de végétaux, mais qui sont souvent dans des atmosphères crépusculaires. Et je trouve justement que les arbres, vu la nuit, sont très beaux et ont une atmosphère fantastique.
Mais la lumière aussi. Je veux dire, il n'y aurait pas d'ombre sans lumière. Donc,
et ça, on va y revenir.
C'est un choix. Mais là, c'était vraiment la lumière. Et c'était le début, après tout ce froid et tout cette grisaille. Dans tous les sens du mot, si c'est pas noirceur.
Mais on va parler de noirceur, d'ombre et de lumière beaucoup au cours de cet entretien. Pourquoi avez-vous choisi le nom Sarah Moon ? Je crois que ça vient d'une séance photo pour l'Express où le photographe était malade.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'Express, j'ai fait cette photo au pied levé parce qu'il était malade et qu'il savait que j'étais mannequin, que je faisais des photos de mes amis. Et donc sur le champ, j'ai pu trouver une amie qui posait, et quand ça a été fini, ils m'ont dit il faut signer. J'étais encore mannequin, je voulais garder mon emploi. Et voilà, j'ai dit je voudrais m'appeler Sarah, c'est un nom que ma grand-mère me donnait, donc Sarah ceci, Sarah cela. Et quand j'ai dit Sarah Son ou Sarah Moon, ils m'ont dit Sarah Moon, c'est très bien, ça te va très bien, et voilà.
Si vous étiez une lune, quelle lune seriez-vous ? Une pleine lune ? Une lune...
Je ne me suis jamais posé la question. Je les aime toutes. J'aime bien quand c'est un croissant.
Oui, c'est très graphique. Oui. Certains disent qu'elle influence les humains. Est-ce qu'elle vous influence ?
Comme tout le monde, je pense. Qu'elle m'empêche de dormir quand elle est pleine. Il paraît qu'il faut se laver les cheveux.
Ah oui ?
À ce moment-là. Enfin, on m'a toujours dit ce que je ne fais pas. Et l'influence, oui, je veux dire, je ne sais pas, sûrement elle m'influence. Enfin, en tout cas, j'aime bien la voir.
Il y a l'expression « être dans la lune » qui signifie être facilement sujet à la rêverie. Est-ce que vous êtes dans la lune ?
Ça, on peut le dire, vraiment. C'est-à-dire, oui, je suis dans la lune, c'est-à-dire que j'ai du mal d'abord à faire plusieurs choses à la fois, et c'est vrai que je dévie. Je dévie.
Vous rêvez beaucoup, et je parle même de façon diurne.
Non, diurne, non.
Des rêveries ?
Pas vrai. Je m'absente, si c'est ça, rêver.
Et la nuit, vous vous souvenez de vos rêves ?
Quand je m'en souviens, c'est jamais tellement... Dans rêve, il y a cauchemar aussi, je veux dire. Dans onirique. C'est pour ça que quand on dit un univers du rêve, j'ai toujours l'impression que ça doit être des petites fleurs.
Non, pas du tout, je vous le confirme. Dans le catalogue de votre rétrospective au Musée d'Art Moderne de Paris, on vous interroge sur le fait de vous poser des questions et vous dites, Sarah Moon, je vous cite, Ce ne sont pas les réponses que je crains, c'est d'être sommée de répondre. Je déteste les affirmations, la vérité est tellement mobile. Ce que je dis maintenant, il se peut que je le dise autrement demain.
Mais je pourrais vous le redire encore aujourd'hui.
Et y a-t-il des choses fixes en vous ?
Oh ben sûrement. J'espère. J'espère. Non mais c'est vrai, la vérité. D'abord c'est à chacun la sienne. Et c'est vrai qu'elle est mobile. On ne peut pas dire exactement la même vérité. Le souvenir, par exemple, c'est une reconstitution d'une vérité. Ce n'est pas vraiment la vérité. Il y a des éclipses. Tout ce qui dérange.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
J'ai voulu mettre en exergue la coupe, bien sculptée et architecturale. C'était très important pour moi. Pour ce défilé, j'ai voulu de la beauté et de la couleur. J'ai utilisé le bleu marine parce que le noir, on le voit partout. Donc j'avais envie d'utiliser le bleu marine. Ça symbolise l'armée, l'uniforme. C'était une mode très sophistiquée, mais j'avais envie d'y rajouter une touche de punk.
C'est Yoji Yamamoto qu'on entend en 2009. Sarah Moon, vous publiez un beau dialogue en mots et en images avec le grand styliste japonais chez Delpire & Co. avec un texte en anglais, 45 photographies, très beau papier. Quelle a été la source du désir de faire cet objet ?
J'ai toujours aimé la mode de Yoji Yamamoto. J'ai toujours aimé sa démarche, c'est-à-dire de toujours habiller les femmes plus ou moins lady bleu marine, oui, enfin, ou noir.
On l'appelle le poète du noir.
Mais chaque fois de s'adresser à la même personne, enfin, d'imaginer la même femme. Enfin, 100 fois sur le métier, hein, mais c'était pas toujours tout à fait la même. Et chaque collection était quand même une surprise, plus qu'il a un sens des matières et de l'architecture du vêtement. C'est ça qui est vraiment très très beau. Donc j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Quand il m'a dit qu'il aimerait travailler avec moi d'une manière plus consistante, j'ai dit bien sûr, j'étais ravie.
Vous semblez être quelqu'un de très fidèle avec les êtres que vous affectionnez, puisque vous photographiez ces collections depuis la fin des années 90. La saga Cacharel, ça a duré une quinzaine d'années. Il y a eu 15 ans aussi avec votre assistant Mike Yavel, interrompu par sa mort en 85. Et tout à l'heure, vous me parliez d'une monteuse.
Oui, les gens avec qui je travaille, c'est évident pour moi. C'est une évidence que, et de toute façon, les relations, quand elles peuvent exister, dans la durée, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je veux dire, vraiment, d'abord, c'est un échange. Je veux dire, il n'y a pas un attachement de l'un sans l'autre. Il y a une évidence. Et c'est vrai que presque, sauf Michael qui est mort, mais autrement, tous les gens avec qui j'ai travaillé, toute mon équipe, et vous mentionnez les films, c'est pareil, les photos et les films. Oui, c'est un bonheur de pouvoir toujours être avec les mêmes. C'est l'équipe.
Et quelque chose qui vous relie à Yoji Yamamoto, c'est que tous les deux, vous n'avez jamais suivi les tendances.
Ben non. Non.
Que votre intériorité, votre intuition.
Je ne pourrais pas dire ça. C'est que c'est une. Les tendances. De toute façon, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu des différentes. Il y a celle à laquelle on adhère le plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens dont je croyais. C'est comme les portraits. C'est un écho entre ce qu'ils font et ce à quoi je peux répondre.
Alors justement, c'est intéressant que vous utilisiez le mot écho, puisque j'ai vu dans un autre texte que vous l'utilisiez de nouveau pour parler des photographies. Est-ce que ce qu'on photographie, puisque vous dites que c'est l'écho du photographe, est-ce que ce qu'on photographie ressemble d'une certaine manière au photographe ?
Ce qu'on photographie, Bah sûrement, puisque chacun, je dis toujours aux jeunes photographes, si vous voyez un arbre, autant de regards peuvent être différents en voyant un arbre. C'est jamais le même, chacun a son regard. C'est vraiment quelque chose qui est unique, son regard. Mais tous les individus.
Dans le livre...
Photographe ou pas.
Oui. Est-ce que vous changez de regard?
Oui, j'espère. Enfin, changer, pas le...
Évoluer.
Il y a quelque chose que j'adore, qui est une citation, mais là, vous me la posez, c'est une citation de Kafka qui dit que ce n'est pas le regard qui invente, qui reconnaît les images, c'est que les images inondent la conscience. Et j'adore cette phrase parce que je pense qu'elle est réservée à tout le monde. Je veux dire, chacun, c'est ça, je veux dire, bien sûr que chacun voit, c'est comme la vérité, chacun a la sienne, chacun voit son, ce qu'il voit. Je veux dire, quand je dis aux jeunes photographes, on peut regarder, 15 personnes regardent un arbre et il est différent chaque fois, c'est évident. Parce que je pense qu'il y a un écho entre ce que l'on ressent et ce que l'on regarde.
Dans le livre, je ne sais pas si c'est à l'inconscient de Yoji Yamamoto qu'on accède, mais à deux reprises apparaissent ces mots fétiches, et parmi lesquels on trouve contradiction, incomplet, destruction, asymétrique. Quels sont les vôtres?
Alors, je ne me suis jamais posé la question des miens, je vais vous dire. Parce que ça aussi, ils doivent pouvoir changer. Asymétrie, non. Et les autres
Incomplet, destruction, contradiction.
Les mes mots à moi. Mes mots à moi. Fascination.
C'est beau. Il y a le côté magie, envoûtement.
Oui, fascination, écho. Il faut que j'en trouve encore combien?
Non, ça suffit, il n'y a pas d'exercice, ne vous inquiétez pas.
Non, parce que ça me... C'est pas venu comme ça spontanément.
Mais ce sont deux très beaux mots, écho et fascination. Guy Bourdin vous a dit qu'on ne pouvait pas être photographe tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah bah, je dis que ça, c'est vraiment vrai. L'inspiration, c'est pas donné du tout, du tout. On n'appuie pas sur un bouton pour être inspiré. C'est, dans le travail appliqué, c'est très très précis parce qu'on vous demande de travailler, il y a un délai pour rendre le travail. Donc, il y a un laps de temps pour réussir ou rater qui est très très court. Donc, il y a des jours où, effectivement, on trouve la porte de sortie à l'intérieur de ce travail, parce qu'il y a quand même un cadre. Et puis, il y a des jours où on n'en trouve pas, et c'est raté. Et c'est, il faut vraiment arriver à trouver... Oui, moi, je dis toujours la porte de sortie, c'est ça, c'est... Être surpris soi-même par ce qu'on regarde, qui est pourtant, dans mon cas, très souvent dans les travails de commande, une robe, une femme.
Alors, dans le livre, il y a un portrait de Yoji Yamamoto, il y a les collections que vous avez photographiées, et pour moi, la plus belle photo, c'est la photo d'un de ses outils. C'est la paire de ciseaux qu'il utilise avec l'ombre portée. Et l'ombre est très importante dans votre travail.
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la lumière a son ombre. Et c'est avec les deux qu'on travaille.
Est-ce que vous êtes en bon terme avec votre ombre?
Je la photographie quand je ne veux pas me photographier.
Vous aimez son apparence?
Ben, ça dépend quelle heure il est. Il faut que le soleil soit un peu plus long. C'est-à-dire, c'est quand le soleil est dans mon dos et qu'il s'allonge, si vous me demandez. Mais j'aime toutes les ombres. En ce moment, je suis très, très fascinée par les ombres. Donc, par la lumière, puisqu'il faut, il faut qu'elle soit projetée, quelque part.
Alors, entrons dans le monde des ombres et dans tous les sens qu'il possède. Dans le photo poche qui vous est consacré, Sarah Moon, on voit une photo intitulée « Renseignements » au pluriel, sur laquelle figure un singe habillé en homme avec un petit garçon. C'est très énigmatique, c'est presque lynchéen.
C'est drôle que vous me parliez de cette photo-là. En fait, c'était une publicité pour un fauteuil qui s'appelait « De Cède ». Et c'est une des premières photos que j'ai fait. Et j'ai pris un ami pour faire... pour porter le masque de singe. Et j'ai pu faire ça, avant ça existait, à la Bibliothèque nationale. C'était le lieu que j'avais choisi pour amener le fauteuil. Et j'aimais beaucoup l'histoire que je me racontais. Je ne sais plus exactement laquelle. Mais il y avait justement une anomalie là, entre cette petite fille qui tenait la main de son père probablement, qui avait une tête de singe, et c'était cette anomalie qu'on interrogeait. Et je suis contente que vous disiez que ce soit lynchien.
Alors une autre photo qui interpelle, parce qu'on pourrait appeler une anomalie, mais pas forcément, c'est un cliché troué qui s'intitule Anvers 1990. Donc c'est en Belgique et on ne s'attend pas du tout à voir ce qu'on voit sur la photographie, c'est-à-dire plein de flamants roses.
C'était aux eaux. Et je l'ai appelé comment, c'est la photo ?
Anvers, 1990.
Ah bah oui, bah c'était Anvers. C'était Anvers et c'était mon Polaroid, et c'est ce que j'aimais souvent dans le Polaroid. C'était une surprise, comme ça, du négatif, qui avait des défauts. Hélas, dans cette espèce d'univers sublimé quand même, parce que de voir tous ces flamants roses en même temps, c'était vraiment très beau. Il y avait quand même déjà une amorce de destruction.
Une amorce de destruction.
Enfin, une amorce de poison.
De poison.
Oui, parce que c'est quand même empoisonné. Beaucoup, beaucoup de beauté.
Ah oui ? La beauté est forcément vénéneuse ? Ben,
en tout cas, certaines. La beauté de Baudelaire, par exemple.
Ah bah, évidemment, j'y pensais. Bah...
Donc, je veux dire, il y a souvent ce mélange du poison et de la beauté. Ça arrive pas tout le temps. Hein.
Non. Chez vous, il y a aussi parfois le mélange de la mort et de la vie, et je pense... Alors, il paraît que vous visitez toujours les eaux des villes où vous vous rendez, et les animaux dans vos photos, on ne peut pas savoir s'ils sont vivants ou morts.
Oui, mais j'aime bien ça. C'est vrai. C'est-à-dire que je dis même que la taxidermie et la photographie ont un rapport, dans la mesure où on photographie souvent un souvenir de ce qui a été. Et il y a... Quand c'est bien reconstitué, la taxidermie, j'ai travaillé pour le Muséum d'Histoire Naturelle, et j'avais accès avec Alchimie. Et ça, c'était vraiment intéressant de voir quand tout d'un coup, ils avaient l'air vrais, et que le taxidermiste avait reconstitué la vie dans la mort. Et je dis, la photographie, c'est souvent ça, parce que ça, c'est beaucoup autour du souvenir, autour de l'inconscient, autour d'une motivation qu'on ne connaît pas, enfin, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on va prendre cette photo-là. Enfin, qu'elle vous prend, hein. Il dit toujours ça.
Il y a une photo qui s'appelle tout simplement L'oiseau, qui date de 2000, et c'est un oiseau d'un vert surnaturel. Est-il vivant ou est-il empaillé ?
Il est empaillé, mais il a l'air vivant.
Oui. Alors, vous photographiez aussi les humains, des femmes surtout, avec parfois des têtes coupées ou cachées.
Oui, parce que quelquefois, il y a trop d'informations dans la photo de mode. On les voit des pieds à la tête. Et on est là pour évoquer plus que décrire. On est là pour... Et quelquefois, la tête est en trop. Quelquefois, c'est les jambes qui sont en trop. Ou il y a trop de... Bon, il y a... Et puis, quelquefois, c'est... De toute façon, cadrer, c'est centré. Donc, quelquefois, on centre... Quand c'est des femmes de dos, on me dit toujours que... Mais j'adore ce qui se passe dans la silhouette, le dos, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une présence dans le dos, dans la manière dont les gens se tiennent. J'ai toujours été intéressée par ça. Alors, en photographiant ces jeunes femmes, absolument, le rapport entre le cou et les épaules et cette jeunesse... est très spectaculaire.
Azzedine Alaïa a dit de vous, Sarah Moon, que vous étiez sensuelle et peu dévoilée. Est-ce que ça vous correspond bien, peu dévoilée ?
Oui, j'aime bien l'idée. Je ne le savais pas. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça.
Bah, je ne me souviens plus non plus. Trop de sources. Il y a une atmosphère fantomatique avec une étrangeté sourde qui est dans beaucoup de vos photos. Et dans le catalogue de la rétrospective passé-présent, vous dites dans une interview que le seul endroit où vous n'avez pas peur, c'est le train, parce que c'est comme un entre-deux. Et vos photos semblent aussi se situer entre deux mondes, hors réel. Vous avez peur beaucoup ?
Ah oui. Non, ça oui, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Oui.
Oh là là, ça me fait tellement plaisir, parce que moi aussi...
Non, mais c'est difficile de ne pas le dire, parce que c'est vraiment une entité.
Ça vous hante, la peur ?
Ça ne me hante pas, mais ça peut me prendre. On ne sait jamais quand ça vous prend.
Vous ne savez pas de quoi ? Ça peut venir de n'importe quoi.
Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses dont j'ai peur.
Ah oui. Je pense que je peux en
deviner certaines. Pas forcément pour moi, mais oui. c'est... J'ai peur. Bon, et puis j'ai peur dans le noir.
C'est vrai ?
Oui.
Comment dormez-vous ?
Ah ouais, ça va, je dors, je fais ce qu'il faut pour dormir.
Vous avez une veilleuse ?
Non. Je veux dire, depuis le temps, il y a des jours où j'ai peur dans le noir et des jours où je m'habitue du noir. Enfin, je veux dire, c'est une peur dans le noir, ce qui déclenche la peur. Hein, je sais pas, on vous dit le loup quand vous êtes petit, ou on vous dit toujours des choses qui font qu'il y a quelque chose. Enfin, la peur, je n'ai jamais d'ailleurs pensé d'où ça venait. Mais c'est tellement présent dans la vie que... Enfin, je suis contente que ça vous fasse peur aussi.
Non, vous n'êtes pas seule. Mais la nuit règne dans vos clichés. Moi, ça m'a fait penser... Il y a un cliché qui s'intitule « La nuit 2 ». Ça m'a fait penser à Léon Spilliard.
Ah oui, lequel est-ce déjà ? Il y en a beaucoup de la nuit.
Oui, ça s'appelle « La nuit 2 », ça date de 2013. Et se détache une sorte de jetée avec des petites colonnes symétriques dans
ça,
la
c'est
nuit.
Dans
avec
port.
Oui, la mer derrière.
Oui. J'aime bien que vous ayez vu ça. Non, c'est bien.
Et Coney Island, qui ressemble à un univers fantastique en papier découpé. Coney Island, la nuit
ah,
vide.
Ah, mais Coney Island, c'est extraordinaire. Tout le monde a photographié Coney Island à des différentes époques.
Mais pas la nuit.
Non.
Ça, c'est vous. Parfois, il y a tout de même les lumières des fêtes qui éclairent vos nuits, Sarah Moon, et je pense notamment, je crois que c'est dans Circus qu'il y a une femme aux yeux bandés sur une sorte de roue.
Ah oui.
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 Devant une étoile lumineuse.
Oui. C'est, je me souviens plus de son nom, mais effectivement, c'est dans Circus. Et il y a le. Oui, c'est la petite fille aux allumettes. C'est la petite fille aux allumettes dont j'avais fait c'est le premier film d'un des contes que j'ai fait. Et cette femme est sa mère, et elle a toujours très peur, l'enfant, quand on lui lance les poignards sur la roue.
Vous avez adapté d'ailleurs plusieurs contes en film, et vous dites qu'on vous relie toujours à l'univers enfantin, mais que vous n'aimez pas les fées, et qu'en fait, les contes, c'est très inquiétant.
Oui, mais c'est très inquiétant, mais on vous les raconte d'une manière plus ou moins édulcorée, mais pas forcément tous. La petite sirène, c'est vraiment très très difficile,
c'est
un abandon.
Bah, y a
mais
un
même,
le,
même Circus, je veux dire, cet enfant qui gagne... qui meurt de froid et de faim, et que sa mère a abandonné. C'est... Non, tous les contes sont terrifiants.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Sarah Moon, dans vos photographies, on voit du flou qui évoque le pictorialisme, ce courant fin 19e, début 20e, des photographies en demi-teinte, des visages effacés. Vous appelez certains livres coïncidences. Il semble que vous aimiez l'incertitude. Est-ce que c'est le cas dans le réel aussi ?
C'est un fait, plus qu'un choix.
Est-ce que s'en emparer le rend moins terrifiant ?
Oui, probablement. C'est que de toute façon, on ne peut pas être sûr de rien. C'est très difficile d'avoir des... Enfin, il y a des certitudes fondamentales. Hein. L'éthique, c'est une certitude fondamentale. Mais dans ce qui concerne l'image, on croit voir. Et le propre même, c'est qu'on déclenche. Et qu'après, quand on regarde la photo, on ne sent plus rien. C'est qu'il y a un facteur de hasard qui fait que si on est au bon endroit au bon moment, la photo répond. Mais on ne enfin moi, je ne pense pas que je témoigne particulièrement de quelque chose dans mes photos.
Non, vous dites même que vous déréalisez.
Ben, on a dit ça beaucoup de moi, de réaliser. On le dit. Moi, je ne le sens pas quand je vois. Pour moi, c'est le réel.
C'est le réel et c'est aussi un accès à votre inconscient.
Mais c'est probablement ça. Oui, c'est sûrement ça. C'est-à-dire que je vois les choses. Bon, dans la mode, c'est sûr que c'est une situation sublimée. De toute façon, de porter ces vêtements, c'est... ça crée le personnage. Et ça crée un personnage idéal, de toute façon, dans lequel beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes se projettent. Donc, c'est une réalité fictive, quoi. Et pour moi, c'est de la fiction. Plus. C'est-à-dire, c'est un personnage qui exprime, qui est dans un monde, de toute façon, pas tout à fait réel.
Il y a une expression qui revient souvent chez vous, Sarah Moon, c'est la course à la chimère.
Ah ben ça c'est sûr.
Vous en approchez parfois ?
C'est sûr, c'est sûr. Non.
Mais c'est un moteur.
Oui, oui, c'est une curiosité. Et puis c'est aussi assez viscéral. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de voir plus, ou de voir mieux, ou de traduire quelque chose qui n'est pas traduisible.
Je n'ai jamais pensé que devenir photographe était possible, puisque je ne connaissais rien aux machines, à la technique. J'ai grandi en pensant que je ne ferais rien de ma vie à part choisir un mari gentil, le rendre heureux, le soutenir dans ses projets, le regarder faire. Je n'ai rien décidé, ça a évolué, comme tout, et je suis la première surprise.
On entend Sarah Moon, une photographe qui fut essentielle pour vous, c'est Diane Arbus, en 71, quelques mois avant sa mort, au micro de Richard Piat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle ?
Je l'ai rencontrée une fois, mais je l'ai rencontrée juste une fois. Et c'était un événement parce que j'ai toujours adoré son travail. Elle a travaillé dans la mode et un jour elle a dit qu'elle ne pouvait plus, enfin, du jour au lendemain. Elle a fait des photos de mode vraiment avec des enfants très belles. Et surtout, elle a suivi des cours d'une autre photographe, Lisette Model. Et c'est elle qui a dit, elle dit ça dans ses cours, à quand elle devait faire aller à Coney Island justement et photographier à l'intérieur de son cours comme les autres élèves. Et elle est arrivée sans rien, je crois que c'était à Coney Island et tout autour. Et elle a dit, oui, I can't photograph what I want to photograph because what I want to photograph is evil.
Ah, et ça a été le départ. Je veux photographier le mal.
Voilà.
Il y a une définition que vous aimez de Paul Valéry. La définition du beau est facile, il est ce qui désespère.
Oui, c'est pas que je l'aime, c'est... Oui, bien sûr je l'aime. Mais c'est une des premières critiques qu'avait fait Bernard Noël sur mon travail. Et j'avais trouvé ça étonnant, c'est comme ça que je l'ai entendu pour la première fois. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de désespérant parce que c'est inatteignable.
Et pourtant vous l'atteignez, la beauté, en la fixant.
C'est jamais... Oui, enfin, en la fixant. Mais c'est rare. On essaye.
The big event the whole country is talking about, Mrs. Miniver, a timely drama tuned to the terrific tempo of the world of today. Mrs. Miniver, the story of a valiant woman whose love and devotion shield her family from the cruelest onslaught of devastation ever visited upon mankind.
Richard. Eh bien, Sarah Moon, parce que je suis détective privée, je le sais évidemment, vous avez été éblouie petite par le film Mrs. Miniver de William Wyler.
Oui, c'est La Rose de Mrs. Miniver. Et c'était le film que j'ai vu, un des premiers films que j'ai vu, c'est tout à la fois, c'est-à-dire le cinéma et puis cette histoire d'amour, je ne sais plus. Ça me fait penser, je le mélange avec Quai des Brumes, mais je me souviens que c'était, je devais avoir 10 ans, hein, 12 ans. Et ça jouait au cinéma à côté de chez moi et je suis allée.
Le cinéma, c'est une influence colossale sur votre travail. Je pense à votre coffret qui est une sorte de journal intime, 1, 2, 3, 4, 5, qui est construit comme un film. Et votre amour pour Fritz Lang, Buster Keaton, Eisenstein, Welles, Bresson, Dreyer, Bergman.
Mais je crois que j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. J'ai pu faire un long métrage, Mississippi. Mais je crois même que dans les photos, je me racontais... Je le dis souvent, mais c'est quand même vrai, tout à fait au début, une histoire qui n'est dans une seconde d'une histoire que je ne filmerai pas. Au début, c'était vraiment une nécessité de donner un sens à une jeune fille qui courait dans un escalier avec tout. Oui.
Vous dites souvent que vous avez eu la chance d'être née entre Méliès et Bill Gates, oui. Et vous utilisez autant le Polaroid que l'ordinateur qui vous permet de bricoler.
Parce que c'est vrai d'ailleurs, je le dis souvent ça aussi, parce que je suis reconnaissante aux deux. Et c'est vrai que si je n'avais pas commencé l'ordinateur quand j'avais 50 ans, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait et continuer de travailler avec le numérique et surtout les films.
Et le manque de moyens développe l'imaginaire. Vous en avez beaucoup, vous, Sarah Moon. Pour la neige, dans le dernier plan de Circus, il paraît que vous avez filmé au ralenti des grains de sel tombant devant une photo collée derrière la vitre d'un aquarium.
Mais c'est exactement ça, mais je ne sais même pas comment vous le savez. Je l'ai dit.
Ça, c'est je le sais grâce à La Croix, un article de 2008.
Ah.
Je cite mes sources.
C'est marrant, parce que je me souviens vraiment de l'avoir fait. Je l'ai fait avec une amie. On avait un bocal avec de l'eau et on savait que dans les grands studios, il faisait des trucages pour avoir la neige que je ne pouvais pas faire. Et on s'est dit, je ne sais plus qui nous a dit, vous pouvez faire tomber du sel. Et donc, moi, je filmais pendant qu'elle faisait tomber du sel dans l'eau. Et d'ailleurs, ça donne tout à fait l'illusion.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qui. Sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins.
Tout ce qu'elle fait, Barbara.
Vous avez choisi Le mal de vivre de Barbara et moi j'ai animé pendant 10 ans une émission sur la mélancolie. Alors je suis obligée de vous poser la question, Sarah Moon, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Elle vient.
Mais elle ne part pas.
Si, elle vient, elle part. D'ailleurs, comme la chanson, la joie de vivre, ça se termine. C'est tout est mêlé. Hein, le mal de vivre et la joie de vivre, c'est les deux. Et ça, c'est mobile, ça aussi, heureusement.
On a un pouvoir dessus ?
Quand même, il faut faire un effort. Quelquefois, il faut faire un effort.
Oui, souvent même.
Mais il faut le vouloir. Mais on le veut.
Oui, pas toujours. Je crois qu'il y en a qui se complaisent.
Ah ben, non, c'est pas tellement bien. Enfin, c'est pas bien ou mal, mais c'est que si on se laisse prendre, ça va plus loin, c'est la dépression.
Bien sûr, donc, c'est pour ça que...
Il faut essayer, il faut rester dans la mélancolie, pas tomber dans la dépression.
Non, et quand je parle de ceux qui se complaisent, je parle évidemment de privilégiés, puisque sinon oui. On l'a subi et c'est la maladie psychiatrique.
Voilà, exactement.
Sarah Moon, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi l'artiste sud-africain William Kentridge.
Alors là, je pourrais parler de lui pendant vraiment des heures. C'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne au sens propre. C'est-à-dire qu'il a... Je ne peux pas le dire au sens... En fait, il a une communication. Il parle beaucoup, beaucoup du colonialisme, de l'oppression, de la difficulté. Mais il a une façon, avec de l'humour, avec une vision, enfin tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, vraiment, parce que ce soit sur le temps, sur le sujet de la colonisation, surtout. Il a une imagination et une facilité, peut-être c'est difficile, mais d'interprétation de tout ce qu'il fait et de le communiquer comme si c'était tellement simple. Voilà, il coupe le souffle, comme vous avez pu voir.
T'as pas de maison, t'as pas de travail, t'as pas de parents, t'as pas de fiancé, t'es tout seul, quoi. T'as pas de chance.
1991, Sarah Moon, on entend votre film Mississippi One, la relation entre un homme malade et l'enfant qui est peut-être sa fille et qui l'enlève. Et c'est drôle puisque tout à l'heure vous parliez de poison, de venin, et c'est un film en noir et blanc un peu verdâtre que vous qualifiez de couleur du poison et des souvenirs.
Ah, c'est drôle, je me souvenais pas, mais c'est un peu ça.
Ça vient d'où le titre ça. Mississippi One?
Mississippi One, c'est un terme qu'on utilise en photographie pour mesurer les secondes. Et elle compte d'ailleurs une fois Mississippi One, Mississippi Two. Et mon assistant Mike, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, quand on développait un film, il comptait les secondes comme ça, Mississippi One. En français, c'était éléphant 1, éléphant 2, qui correspondait à une seconde. Et oui, c'était une histoire que j'ai écrite avec une amie, Benita Jordan, et je voulais absolument faire ce film. Et ça a été beaucoup de temps pour le faire. Et puis j'ai trouvé Alexandra parce que je cherchais vraiment cet enfant-là. Et elle a pu le faire. Ses parents lui ont donné l'autorisation entre les primaires et les secondaires à l'époque. Et c'était vraiment un personnage. Et le père aussi était un... Enfin, tout s'est précipité et ça a pu se faire. Envers et contre tout, ça je peux vous dire. Mais c'était... Je voulais absolument le faire et ça s'est fait.
On parle des contes, vous employez le mot précipité, et il y a une chose qui frappe dans votre œuvre, c'est l'obsession du temps qui passe. Et il paraît que, enfant, Sarah Moon, vous aviez écrit sur un cahier « Le temps court derrière moi », écrit au voleur.
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, à un moment donné, je cherchais la citation, on m'a dit... Et j'ai vu que c'était moi qui l'avais dit. Alors, est-ce que je l'ai inventé ou qui l'a dit avant? Mais c'était ça. Mais je peux vous dire que ça n'a fait qu'empirer. Surtout à mon âge, maintenant, je me dis... J'ai l'impression même que plus il se précipite, plus il se dérobe. Donc ça, c'est vraiment compliqué.
Mais vous avez une jolie formule, c'est que vous dites que vous êtes nostalgique du temps qui passe, mais que vous n'avez aucun regret du passé, que c'est une nostalgie féconde, une mélancolie active. Alors vous, vous êtes dans l'action, dans le faire.
Oui, c'est pas moi qui ai dit ça, mais on me l'a prêté. Mais moi, j'ai dit qu'effectivement, j'avais rien contre la mélancolie quand elle était féconde, comme celle de Fellini.
Ah bah
et
oui.
C'est pas moi qui l'ai dit ça.
Fellini qui allait voir un psy trois fois par semaine.
Et la mélancolie féconde, et puis le...
Nostalgie du temps qui passe.
Oui, la nostalgie du temps qui passe, quand elle était active, comme dans le cas de Godard, c'était à propos de Godard l'article, enfin je sais plus exactement.
C'est Le Monde.
Oui, je sais, c'est Le Monde, c'est Michel Guérin.
Michel, vous avez prêté des propos que Sarah Moon n'a pas tenus, attention Michel.
Où est-ce qu'on appuie? Là, 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 là. Comment L'émotion monte et puis tout d'un coup, hop, ça y est. C'est comme un orgasme un peu. Ça. Il y a un moment où ça éclate et puis ou on a le bon moment ou alors c'est raté. Parce que ça ne peut pas recommencer. Et le dessin est une méditation. Est-ce que l'autre c'est le tir? Le dessin tu peux effacer, tu peux refaire un autre dessin. Tu n'es pas en prise avec le temps. Tout ton temps, c'est une méditation. Est-ce que l'autre, c'est comme ça, il y a une espèce d'angoisse perpétuelle d'être là, d'être présent.
1994, Sarah Moon, c'est votre film Point d'interrogation projeté aux Rencontres d'Arles, un documentaire consacré à Henri Cartier-Bresson, dont vous aimez la définition de la photo. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur.
On ne peut pas lire mieux. On ne peut pas lire mieux, mais c'était vraiment une joie de pouvoir faire ce film avec lui.
Quel souvenir gardez-vous de lui ?
Ben, c'était un homme magnifique, difficile, passionnant. Et j'ai eu la chance vraiment qu'il devienne un ami.
C'est amusant parce que vous êtes né en France, sous l'occupation dans une famille qui a fui en zone libre. Vous avez grandi en Angleterre à partir de vos 10 ans. Vous êtes devenue sourde et muette pendant 3 mois à la première séparation d'avec votre famille. Et quand on lit vos interviews, on lit que pour vous, les vrais voyages, ils sont dans les livres.
Oui, j'ai beaucoup lu, c'est vrai. C'est drôle ça, quand vous m'envoyez tout ça. Mais bon, c'est vrai, j'ai été envoyée, pas élevée, mais j'ai été envoyée dans un collège en Angleterre quand j'avais 10 ans. Et c'était vraiment comme être sourde et muette, hein, parce que je ne parlais pas l'anglais. J'étais dans un... Enfin, tout m'était étranger. Et ça a pris du temps avant de pouvoir m'habituer. Après, j'y revenais, j'y suis allée tous les ans. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé comme question? J'étais tellement surprise par cette chose.
Je vous ai parlé du fait que pour vous, les voyages étaient dans les livres.
Ah oui, les voyages sont dans les livres, bien sûr. Ben, ça, c'est, la lecture, c'est une, c'était et ça a été. Je regrette parce que ça l'est moins, parce que j'ai moins le temps. Mais c'est une évasion absolument extraordinaire.
Sarah Moon, j'aimerais qu'on termine l'émission sur une très jolie anecdote en parlant de lecture. Est-ce que vous pouvez raconter ce que vous avez conseillé de faire à Suzanne Moncure, un de vos mannequins fétiches, quand elle a eu le cœur brisé et qu'elle est allée chez vous pendant plusieurs mois? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez fait?
Je lui avais dit de lire tout Tchekhov.
C'est un bon remède au chagrin d'amour?
C'est en tout cas, on voit qu'on n'est pas le seul. On n'est pas la seule. Je ne sais plus d'ailleurs à laquelle je faisais. Ça devait être un Tchekhov. Et je pense que c'est... Oui, c'était il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Il faut que je lui demande lequel, parce que tout Tchekhov, c'est beaucoup. Mais il y avait une histoire d'amour sûrement tout à fait précise.
Mais quand il y a beaucoup de chagrin, il faut lire tout Tchekhov. Merci beaucoup, Sarah Moon.
Non, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment très gentil.
Votre ouvrage « Dialogue avec Yoji Yamamoto » est paru chez Delpire & Co. On peut aussi se procurer votre livre dans la collection Photopoche, le catalogue de la rétrospective passé-présent que vous avez consacré le Musée d'art moderne de Paris, ainsi que le coffret 1, 2, 3, 4, 5 chez Delpire & Co. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Florian Dorimini.